Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop. Le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors qu'elle est infiltrée dans une société pré-distorsion, Burnham est forcée d'envisager d'enfreindre la première directive lorsqu'une tradition locale menace la vie de Tilly. Mais nous, on ne va pas siffler dans la tempête, mais en parler dans un podcast. Let's fly!
Planet Halem know. We believe the next clue is in the High Summit.
Only the chosen devout may enter the temple.
You just have to complete the journey of the Mother Compeer.
I'm the queen of endurance.
Having a spiritual awakening.
Sounds kind of wonderful.
There's no shortcuts here.
She doesn't need to die.
Working. Pour en parler, je suis avec un équipage d'élite, comme d'habitude, avec notre Romulien relou, Raymond Brami. Salut Romain.
Salut tout le monde.
Il y a aussi notre lieutenante commandeur Bajoran Marina. Salut Marina.
Bonjour Guigui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver.
Et encore une fois cette semaine, notre lieutenante Marie-Paul. Salut Marie-Paul.
Hello à tous.
J'espère qu'elle aura bientôt une promotion, Marie-Paul, avec tout ce qu'elle fait.
Ouais, j'en ai eu une il y a pas longtemps.
Ouais, ah, pour avoir une promotion, il faudra qu'elle regarde tout Deep Space Nine.
Oh. J'arrive pas à passer le pilote, les gars.
Non, mais je t'assure, tu vas adorer Deep Space Nine. Hein. C'est pour le coup. C'est...
Et Marina, j'ai pas vu le pilote en entier, j'ai pas réussi à tenir.
Alors, il est pas génial le pilote.
C'est pas le meilleur épisode.
Voilà, c'est pas le meilleur épisode. Et honnêtement, skip toute la première saison, passe directement à la deuxième saison.
C'est un bon conseil. Et sinon, donc, avant de parler de Star Trek Discovery, l'épisode de cette semaine, on va faire un petit point sur notre financement participatif parce qu'on l'a lancé cette semaine, ça y est. Au moment où je vous parle, normalement, on est à 73%. Ce financement participatif, c'est bien sûr pour notre événement à Metz le 21 septembre prochain. Donc, on a prévu la projection du film de J.J. Abrams de 2009 et plein de surprises, plein d'animations sur toute une après-midi. Mais pour ça, bien sûr, c'est tout le principe des financements participatifs. Il faut arriver au 100% pour qu'on puisse avoir le budget nécessaire minimum pour que l'organisation puisse tout simplement se réaliser. Et donc voilà, donc on vous invite quand même à regarder, c'est sur KissKissBankBank. Vous pouvez regarder évidemment, les liens ils sont sur notre page Twitter, Facebook, etc. Mais surtout sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Sinon, vous regardez directement sur le site de KissKissBankBank et puis vous cherchez Star Trek. Hein. Normalement, il n'y a que nous hein, sur le sujet. Et vous trouverez assez facilement. Et je suis assez content quand même parce qu'en 48 heures, voilà, d'avoir réuni 73%, ça fait vachement plaisir. Et puis du coup, on a très hâte de vous revoir tous et toutes. Toutes les personnes qui ont contribué. Et puis, on espère que ça va aller bien, bien, bien loin, qu'on soit très, très nombreux, parce qu'en fait, plus on sera nombreux et nombreuses, plus la salle que le cinéma nous donnera, plus elle sera grande. Et moi, j'ai bien envie d'être dans la grande salle à 270 places.
Ah,
je sais
oui.
Ce que vous en pensez ?
Ouais, ça serait chouette, mais j'avais quand même une question à te poser, Guigui. Tu sais, nous, les gens de droite, on aime la transparence. Et je trouvais que 100 000 euros, ça me semblait un petit peu cher. Comment tu justifies ce prix pour le Kiss Kiss Bang Bang ?
Je pense que tu as mal lu et t'as rajouté des zéros. Le minimum qu'on doit atteindre, c'est 1500 euros. Avec ça, on sera juste bien pour faire le minimum de l'animation. Et bien sûr, plus on avancera, plus on sera haut. Plus on pourra rajouter, par exemple, des lots dans la tombola. Parce que oui, il y aura une tombola avec des super lots. Et on pourra en acheter plein, par exemple, pour qu'un maximum de personnes repartent avec des trucs. On pourra faire tout un tas de trucs dont je peux pas vous parler, mais qui sont dans les cartons, en tout cas, qui sont des projets un peu secrets. Voilà.
Si tu cherches des organisateurs, il y a une boîte qui s'appelle Big Malion, je connais très bien, qui peut t'organiser ça pour pas cher. Tu me dis, hein.
Je suis pas sûr que le rapport qualité-prix finalement du service sera effectif.
Ok, en tout cas, n'hésite pas, j'ai le 06 du gars.
Ça marche, c'est ça.
What a surprise.
Donc on va commencer à parler de l'épisode de cette semaine et aussi celui de la semaine dernière parce que donc la semaine dernière Marina et Romain vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de la semaine dernière ?
J'attendais pas grand-chose de cette saison. Finalement, je suis plutôt agréablement surprise. J'ai bien aimé les développements, j'ai bien aimé les personnages. J'adore que franchement tout tourne autour de un ou deux personnages, sérieusement. Ils peuvent pas s'intéresser un peu aux autres. Mais c'est pas grave. Finalement, au bout de 5 saisons, j'en ai pris mon parti. mais que tout tourne autour de Michael, qu'elle résolve toutes les situations, que tout s'arrange. Moi, j'aime bien ces deux méchants, la Belle et la Bête, Moll et Lac, je les aime bien. Booker, il était sympa aussi. Et puis, l'univers miroir, sans qu'on voit les personnages d'un univers miroir, c'était pas mal.
Alors moi, c'est exactement ce qu'a dit Marina, mais à l'envers. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça absolument horrible. J'ai trouvé que les références étaient archi forcées. Il n'y a absolument rien qui justifie qu'on retrouve l'ISS Enterprise. Enfin, encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois avec Discovery, mais cette impression qu'il y a 50 personnes dans l'univers et 3 vaisseaux qui restent. Alors là, l'Enterprise, il est partout. C'est-à-dire que TNG faisait parfois des trucs comme ça où tu retrouvais des trucs, mais tu vois, ils avaient l'intelligence de parler d'autres vaisseaux. Ou tu vois, quand c'était l'Enterprise, c'était jamais l'Enterprise A ou l'Enterprise D. C'était des Enterprise B qui avaient été oubliés depuis des années. Non, là, c'est toujours l'Enterprise parce que même dans l'univers Mirror, il y a qu'un vaisseau. Moll et Lac, moi je trouve ça nul à chier. Et voilà, non, j'ai rien à ajouter sur cet épisode. J'étais limite content de pas faire le podcast parce que je me serais énervé tout seul, je pense.
Ah, moi j'ai vraiment bien aimé, hein. J'ai franchement, mais comme quoi avec Romain, les contraires s'attirent.
C'est une histoire de feu et de glace.
Oh non, on va pas déjà parler de Trône de Fer, ça fait pas 5 minutes.
Non, on va parler de Game of Thrones. Merci Romain de me lancer. Hein. Access
denied. Et alors, et du coup, l'épisode de cette semaine sans spoiler.
L'épisode de cette semaine, je l'ai trouvé assez cool. En fait, je commence à mieux comprendre ce qu'a voulu faire Michel Paradise avec cette saison. Et je suis en train de réaliser que finalement, cette approche Indiana Jones que je trouvais un petit peu nulle sur le papier, finalement, ça leur permet de retourner de manière un peu subtile au format Planet of the Week. Et finalement, l'épisode de cette semaine, c'est un épisode typique Planet of the Week qui m'a beaucoup fait penser à TNG, au TNG de l'époque. Alors, pas les meilleurs TNG, hein, soyons clairs, mais ça m'a quand même fait penser à TNG. Donc, j'ai retrouvé une naïveté de Star Trek que j'aime bien, une histoire avec un début, un milieu, une fin. J'aime bien quand on challenge un peu les croyances des peuples, mais sans les ridiculiser, en quelque sorte. Donc, pour le coup, ouais, j'ai retrouvé un peu mon Star Trek dans cet épisode, à ma grande surprise. Ça m'a fait penser à l'épisode d'il y a 3 semaines, je pense, qui était également à l'honneur. Et finalement, je commence à comprendre la démarche. On finit même par se demander finalement pourquoi ils n'ont pas complètement jump the shark et été sur du l'honneur toutes les semaines et du Planet of the Week toutes les semaines. Mais bon, écoute, ouais, assez satisfait pour le coup.
Ok, et toi Marie-Paul ?
C'était mieux que la semaine dernière, mais encore une fois, 57 minutes, pour moi c'est trop long. Il aurait fallu faire quelques coupes dans l'épisode. C'était sympathique, quoi. C'était bien de voir Tilly un peu reprendre du service en duo avec Michael, même si évidemment il y en a marre de voir Michael. Et il y a eu un moment où j'ai eu un peu une petite suée dans ce qu'elle dit pendant l'épisode, mais on en parlera pendant le spoiler, mais ça va. J'ai pas regardé mon téléphone ou ma montre comme j'ai pu le faire dans l'épisode de la semaine dernière.
Moi, en fait, j'étais partagée parce que je suis d'accord avec Romain. Effectivement, j'ai retrouvé TNG et même Stargate ou d'autres séries où ils n'avaient pas beaucoup de budget. Ça se passait sur une planète. Ça met énormément de temps à démarrer. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Après, sur plein de points, je trouve que c'est expédié. Michael, elle est arrivée, elle arrive. Elle te donne des solutions. C'est trop, trop rapide. Il aurait fallu un personnage et c'est là où TNG savait très bien le faire. C'est qu'il y avait un personnage qui portait le propos contraire et qui soit était sacrifié, soit qui survivait. Mais là, je trouvais que c'était trop, à la fois trop lent et trop rapide. Et certains personnages étaient sous-représentés. Là, moi, j'en peux plus. Hein. Tout tourne autour de Michael, c'est plus possible. Et depuis que j'ai revu Aleas, tu le sais, je ne vois que des parallèles entre Sidney et Michael. Plein de parallèles par ailleurs. Mais je suis partagée. Moi, j'ai vraiment préféré l'épisode de la semaine dernière. Je suis peut-être toute seule. Mais honnêtement, la semaine dernière, j'ai pas regardé mon téléphone. Là, j'arrêtais pas d'avoir des références à TNG. Et j'étais pas d'accord avec la rapidité de certaines résolutions. Mais j'ai bien aimé Tilly. Alors, je dois dire que Tilly, je l'ai beaucoup aimé dans cet épisode.
L'épisode, il fait 54 ou 55 minutes, je crois. Et comme la réflexion qu'on s'était faite avec Romain Nigita il y a quelques podcasts, bah, il y a 10 minutes de trop dès le début, en fait. Il y a trop de blabla pour amener l'intrigue qui va démarrer. Bon, alors, d'un côté, c'est bien parce que ça nous montre la vie de l'équipage au quotidien, mais d'un autre côté, ça fait que ouais, l'histoire, elle démarre presque 10 minutes trop tard, quoi. Ça mériterait d'être resserré pour être plus efficace, mais en tout cas, je suis de l'avis de Romain et de Marina. C'est quand même plutôt un bon épisode qui a des vibes Star Trek assez classiques, hein. À part ça, moi, le côté Michael and Co, c'est-à-dire qu'en fait, on a Michael et un autre personnage à chaque fois, hein. Donc, c'était Reiner dans le premier, dans le deuxième, c'était Saru, dans le troisième, c'était Book et Culbert, dans le quatrième, c'était Rainer et Stamets. La semaine dernière, c'était Kebook. Et là, cette fois-ci, cette semaine, c'est Tilly. Donc voilà, ça tourne un peu. Finalement, c'est des duos qu'elle forme, hein, ou des trios parfois. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour de Michael, mais comme disait Romain, Michel Paradise, moi, j'ai l'impression de cette saison 5, ils ont enfin compris ce qu'ils voulaient faire de cette série. C'est qu'elle a l'air de trouver enfin sa voie seulement maintenant. Parce que, les personnages interagissent plutôt bien les uns avec les autres. L'histoire fonctionne plutôt bien. Alors c'est sûr, c'est pas à porter au nu, c'est pas des trucs génialissimes, mais ça marche, quoi. Ça fonctionne. Rien que le fait que ça fonctionne après tous les épisodes, les saisons passées où on pouvait râler sur tellement de choses, bah forcément, ça peut que aller dans le bon sens, quoi. C'est juste qu'on va déplorer qu'ils aient attendu la saison 5 pour trouver ce fameux équilibre, cette voie, ce qu'ils voulaient faire de cette série, tout simplement, quoi.
Je trouve un peu dur, quand même. Parce que enfin, le début de la série, il y a quand même une écriture, une unité, et ça se dilue par la suite, c'est pas un entier, quoi.
Je suis d'accord avec toi, simplement la différence c'est que dans la saison 1 de Discovery, et même un peu dans la 2, il y avait beaucoup de choses qui étaient, entre guillemets, pas Star Trek. Tu vois, là, Michael est vraiment très en avant, mais il y a quand même cette histoire de corps, d'équipage qui font corps, où chacun apporte sa pierre à l'édifice, etc. Ça, c'était carrément absent de la saison 1. Il y avait plein de choses qui étaient absentes. Les maquillages des Klingons, je suis désolé d'être sur un truc aussi trivial, mais moi, ça m'a vraiment très énervé dans la saison 1. Ça m'a empêché d'apprécier plein de choses. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient pas Star Trek dans les concepts, dans ce qu'on attendait d'une série Star Trek.
Il y a un autre truc qu'il maîtrise beaucoup mieux aussi que les saisons précédentes, je trouve, c'est les story B et les story C.
Exactement.
Centrés sur des personnages d'équipage. Là, en l'occurrence, il y avait une story B, une story C. Il y avait donc, c'est léger, hein, mais il y avait autour de Culbert qui était assez touchant, j'ai trouvé, avec sa mère et toujours la recherche de ce qu'il ressent depuis quelque temps, de sa grand-mère. Et il y avait, bon, ça c'est une story C à peine, mais il y a Adira, c'est ça, qui devient membre de l'équipe de Passerelle. Avec la relation avec le premier officier, c'est pas mal. Vous remarquerez quand même qu'ils ont du mal à sortir des personnages qu'ils aiment bien, c'est-à-dire que Adira et Culbert ont toujours le bon, et Stamets indirectement ont toujours le bon rôle versus Washokon, la fille qui a les cicatrices et tout, et le personnage asiatique qu'on voit jamais. Excusez-moi, je connais toujours pas leur nom après 5 ans.
Mais c'est parce qu'ils font pas partie du casting régulier. Eux, c'est vraiment des figurants. Tu vois, Adira, Culbert, Stamets, etc. Ils sont sur les images de promotion de la série. Ils ont leur nom en générique.
Ouais, mais ça, c'est pas du tout Trek, pour le coup. Ça va à l'encontre de tout ce qui a été fait de Star Trek depuis sa création, pour le coup.
Bah non, par exemple, le lieutenant Barclay, il était là une fois de temps en temps et...
C'était pas un membre de l'équipage régulier.
Toi, ce qui te perturbe, c'est qu'en fait, les membres de la passerelle ne sont pas les personnages principaux.
C'est ça.
Oui, alors, oui,
ouais,
je
moi, je trouve pas ça choquant. Au contraire, c'est bien. Et
oui,
puis,
moi, ça
déjà...
me choque pas non plus.
C'est pas choquant en soi, mais ça fait qu'on tourne toujours autour des mêmes personnages, si tu veux. C'est ça qui me trouble. C'est pas tellement que ce soit des membres d'équipage ou pas. C'est que du coup... les états d'âme de Culbert, les états d'âme d'Adira et tout, on les a quand même beaucoup vus depuis 3 ans, même si je trouve que c'est mieux maîtrisé cette année.
Red Alert!
Entrez. Vous entendez ces sifflements? Ils font partie intégrante de leur langage. Zora, tu veux bien traduire ce qu'ils disent en standard?
Bonjour, quelqu'un m'entend?
Je vous entends, compagnon. Êtes-vous blessé?
Non, mais j'ai très soif.
Nous avons de l'eau pour vous.
Pourquoi est-ce qu'ils parlent en sifflant? Ils ne parlent pas qu'en sifflant. Ils ont un langage phonétique pour les interactions quotidiennes, mais la langue sifflée leur permet de communiquer sur de longues distances. Ça arrive dans beaucoup de cultures avant l'avènement des technologies de communication. On peut en apprendre tellement sur une société par la manière dont les individus parlent les uns aux autres. Tenez, les Halemnites. Leur langage n'a aucun terme pour qualifier le statut social ou la classe. Ils reconnaissent 3 identités de genre distinctes et leur plus grand trésor, c'est leur lien entre eux, en dépit de toutes les épreuves qu'ils affrontent. Et regardez ça, ils ont plusieurs mots pour le concept de douleur. Blessure, souffrance, poussière. Ça me rappelle le séminaire de xénolinguistique du docteur Tiprasier sur Vulcain.
La morale de l'histoire, c'est que la xéno, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas, on dirait. C'était drôle avant que je le dise. Vous seriez utile à l'Académie de Starfleet.
Oui, ne me tentez pas. Et d'ailleurs, comment ça se passe là-bas?
Capitaine, nous avons chargé les marqueurs sous-cutanés dans le téléporteur, et l'enseigne TAL a ajouté le dernier modèle de tricorder rétinien. Ça vous permettra de rester discrète.
Je vous remercie, commandeur. Paré à la téléportation. Allons-y.
Warning.
L'épisode s'appelait aujourd'hui Whistle Speak.
Siffler dans la tempête en version française.
Whistle Speak, donc ça veut dire à peu près la même chose, mais de manière un peu plus rapide.
Écrit par Kenneth Lynn et Brandon Schultz et dirigé par Chris Byrne. Bah donc c'est Michael hein, qui avec Tilly sur une société, enfin qui est un undercover dans une société pré-distorsion, même pré-industrie hein, en fait, où une race, c'est les Dénobuliens, c'est la race du docteur dans Undercover. Surprise, si je me
Flux,
trompe pas.
Le docteur Flux.
Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une planète qui leur plaisait bien, avec une population. Il y avait un petit des problèmes, on va dire, écologiques, environnementaux. Ils les ont aidés en créant des espèces de piliers comme ça tout le long de la planète pour voilà que ce soit les protéger d'une espèce de tempête de sable permanente.
Bah, des tours météo, tout simplement.
Ouais, des tours météo qui puissent vraiment permettre à ce peuple de survivre. Sauf que, bah, au fur et à mesure du temps, bah, ces tours se sont complètement détériorées avec les siècles. Il n'y en reste plus qu'une. Et du coup, ils organisent cette peuple-là. Ils ont une espèce de religion un peu chelou autour bah voilà, des dieux qui font pleuvoir et qui les protègent un peu des intempéries. Et ils organisent une course pour que voilà, les gagnants puissent ensuite demander aux dieux leur clémence pour la météo, un peu comme nous en ce moment. Hein. Ce qui n'est pas très beau chez moi, en
exactement.
Tout cas, je sais pas comment c'est chez vous. Les gagnants et gagnantes bah, de cette course, finalement, sont sacrifiés parce qu'ils pensent que, finalement, bah, pour que ça puisse marcher avec les dieux, évidemment, il faut un sacrifice. Tout ça, ça va mener à une grosse violation de la directive première de Michael. Mais on va commencer déjà par le début. Qu'est-ce que vous avez pensé donc, de cette entrée en matière, déjà, qu'effectivement, qui est très longue hein. En fait, dans tous les épisodes, on a au moins 10 minutes où il y a Michael qui discute avec Stamets pour dire « Bon alors, l'indice de la semaine dernière, il va nous amener où ce coup-ci » Et ça, c'est un peu long, non?
Et ouais, mais en attendant, ils ont enfin parlé de ce tube de plein d'eau, là. Le plein d'eau de ça, rien, ouais. D'ailleurs, mais parce que l'épisode dernier, il était passé oui. À la trappe, hein.
Alors en fait, oui, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, d'ailleurs on en avait parlé sur le Discord, je me demandais mais d'où vient cette fiole d'eau ? Et c'est en revoyant la deuxième fois que la fiole, je voyais qu'elle était incrustée dans l'espèce de gros pièce ouais. De puzzle. Et ça, c'était pas clair du tout, quoi. Ça se voyait à peine.
Oh, c'est parce que t'as mal regardé.
Oui, c'est parce que j'ai dû dormir à ce moment-là.
Bon, rien, moi j'ai bien aimé l'effet visuel qu'ils ont fait avec, mais ça n'avait pas d'intérêt spécial, ça aurait pu être... ça aurait pu être torché en deux phrases, quoi.
Surtout que la réflexion de se demander ah, ce qu'il trouve rien dans l'eau parce qu'elle est ultra distillée, mais du coup il cherche à un symbolique, enfin à un autre niveau, quoi. Et ça, je veux dire, ils auraient pu y penser un petit peu avant, quand même, parce qu'ils ont passé quand même 2 jours à se poser des questions.
J'ai aimé l'épisode, mais je suis archi d'accord avec vous sur le fait que ça démarre trop lentement. Et en fait, ils savent plus faire, justement. C'est assez marrant de voir à quel point ils savent plus faire l'épisode of the week, ce qui marchait si bien dans le Planet of the Week, ce qui marchait si bien dans les anciennes séries Star Trek. Et en fait, les 15 premières minutes auraient été résumées dans un Captain's Log dans Star Trek Next Generation.
Oui,
il y avait Captain's Log. On vient de trouver une planète avec une station, enfin avec des phénomènes météorologiques très étonnants, pas naturels. Et là, t'aurais eu Data qui fait, capitaine, je repère des tours qui ne correspondent pas à l'évolution technologique des habitants de cette planète. Et ça aurait été plié, ça aurait pris 7 secondes dans l'ancien Star Trek, en fait, si tu veux.
C'est là qu'on voit qu'il leur manque justement une machine à exposition in-universe comme Data, quoi. C'est vrai que c'était un personnage parfait pour ça.
Ça, mais surtout, ils traînent leur boulet de l'épisodique. C'est-à-dire qu'ils sont obligés quand même de toujours amener cette histoire de chasse au trésor et tout, donc de remettre dans le contexte comment ce contexte va avoir une influence sur cette histoire de planète qui, en soi, est complètement décorrélée, en fait, de la chasse au trésor. Les problèmes météorologiques et tout ça n'ont presque rien à voir avec la chasse au trésor. Donc, en fait, ils s'enlisent.
Bah si, parce que c'est un lien... Histoire. Ça a un lien du fait des scientifiques, en fait, puisque...
Oui, mais c'est un lien indirect.
Oui, mais c'est ces scientifiques-là qui ont travaillé à l'enfouissement de ces indices, quoi.
T'as archi raison, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ça soit dans une tour météo, ça s'est lié, mais le fait que la tour météo soit en train
de tomber en panne,
en quelque sorte, ça, d'ailleurs, limite, ça pose même d'autres problèmes, parce que tu dis, ah ouais, Deus Ex Machina, la tour météo tombe en panne la semaine depuis 2 millions d'années, Discovery va voir le vaisseau, tu vois. Donc,
Le pouvoir de Michael.
C'est le pouvoir de Michael. Jesus Michael.
En fait, on ne sait pas exactement, la tour, ça se trouve, elle est dégradée depuis peut-être des années, des dizaines d'années. Tu vois, on ne sait pas quelle lenteur a cette détérioration, quoi. Par contre, il y a un truc quand même, je voulais juste revenir. En fait, ouais, je suis d'accord avec toi sur la structure des épisodes. C'est en fait, ils ne savent plus faire de pré-générique, tout simplement. Parce que en fait, le générique, il est placé à peu près 10 minutes après le début de l'épisode. Mais en fait, il pourrait être placé un peu n'importe où. de manière complètement aléatoire. Alors qu'en fait, un pré-générique, à l'époque où les épisodes étaient passés sur des chaînes de network, où en fait, il fallait empêcher les gens de zapper d'une chaîne à l'autre, entre plusieurs coupures publicitaires, le pré-générique était super important parce que c'était un truc très accrocheur, de seulement 2-3 minutes. Alors que là, maintenant, ils ont plus ce problème-là avec les plateformes de streaming, ce qui fait que bon, voilà, le générique, tu le mets à 5 minutes, à plus 10 minutes, peu importe. En fait, c'est juste, il est intercalé entre deux scènes, mais juste parce qu'il faut mettre un générique. Mais en vrai, ils n'en ont plus vraiment l'utilité. Et c'est ça qui fait que je trouve que ça se ressent que les épisodes ont besoin d'être coupés, d'être un peu charcutés, d'être un peu resserrés pour être plus efficaces, parce que cette lenteur-là, elle joue contre l'épisode qui est plutôt bon d'une manière générale.
Ouais, parce qu'en fait, tu parlais de Kurtzman, mais en fait, quand il était producteur exécutif d'Alias, le générique parfois arrivait 15 ou 20 minutes après le début de l'épisode. Donc, et franchement, je vous mets au défi de regarder un épisode d'Elias, de regarder Jennifer Garner avec ses yeux larmoyants et de ne pas penser à Burnham. Mais elle penche la tête et elle larmoie de la même façon que Burnham. T'as l'impression que c'est un copier-coller.
Non, t'as raison.
Et que c'est au niveau... Et t'as l'impression que c'est Kurtzman qui leur dit « Vous jouez comme ça ?» Mais il y avait plein de trucs qui me dérangeaient dans Elias, une série que j'aime beaucoup. Hein. Mais là, dans Discovery... En fait, en voyant Alias et Discovery en parallèle, je retrouve le même jeu, les mêmes tics de narration, parce qu'on pourrait remplacer ce qu'il cherche par Rambaldi, c'est la même chose. Hein.
Ah non, mais depuis que t'as mis le doigt dessus il y a quelques semaines, je pense que à ça. Hein. T'as complètement raison. Et sinon, il y a une scène sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est Kovitch, notre bon David Cronenberg, dans sa super salle blanche. Où en fait, il s'amuse avec un calepin, il est tout content d'avoir récupéré du 21e siècle. Parce qu'en fait, il donne seulement à Michael maintenant le nom de tous les scientifiques qui ont caché les trucs, parce qu'il n'avait pas l'information avant. Donc là, il l'a donné sur un calepin qui vient du 21e siècle, en disant qu'il a le bras long, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ce bon Kovitch, on pourrait le retrouver un peu plus tard dans un téléfilm qui s'appellerait Section 31, par exemple? Parce que j'ai l'impression qu'il nous tisse ça depuis le début.
C'est possible, mais c'est... Vu que la saison Discovery s'arrête, la série s'arrête cette année, il n'y en aura peut-être pas de suite. Mais finalement, la théorie qui était un peu absurde au départ de Future Man de Enterprise, il y a quand même vraiment cette notion de voyageur du temps, Kovitch. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Après, Michael a tellement de bienveillance envers lui, pour une raison qui m'échappe un peu, je dois dire, que t'as pas l'impression qu'il essaye de le positionner comme un méchant, en fait. Mais c'est surprenant quand même, parce qu'il la kidnappe quand même. C'est quand même un kidnapping ce qu'il fait. Hein. Il hack en quelque sorte le transporteur et le ramène chez lui. C'est étonnant. Et Michael, toujours ce sourire rayonnant. Je suis content de vous voir, mes amis. C'est un peu surprenant la relation qu'elle a avec lui, je trouve.
Je me suis dit, mais c'est trop glauque.
Ouais, c'est clair. Je me suis dit, what? Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a...
Je l'adore, David Cronenberg, mais pas dans un univers Star Trek, en fait.
Bah, là, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien dans le personnage, justement. Évidemment, quand tu penses à son univers perso cinématographique, c'est autre chose, mais il est super.
Ouais, je trouve que c'est une très grande réussite, ce personnage, depuis le début. C'est plus que... C'est plus la relation de Burnham avec lui qui n'est pas vraiment développée, en fait. T'admets qu'elle l'aime bien. Tu sais pas pourquoi.
C'est vrai que moi aussi, je suis comme vous. Hein. Je trouve que ce personnage qui a des goûts anachroniques fonctionne plutôt bien et qui reste assez mystérieux. Donc, on aime bien le voir de temps en temps. Et puis, David Cronenberg, hein, il fait bien l'acteur. D'ailleurs, il jouait aussi dans Alias. Souviens-toi, Marina.
Oui, mais justement, j'allais y venir parce qu'il y a plein de vieilles pointures qui jouaient dans Alias. Il y avait Roger Moore aussi.
Oui, Roger Moore dans la saison 1, ouais, tout à fait, ouais, exact. Après le générique, ils arrivent, donc Tilly et Burnham font équipe. Alors pourquoi c'est vrai qu'en tant que capitaine, elle veut vraiment faire toutes les missions de terrain, quoi. Elle peut pas envoyer quelqu'un d'autre.
Donc, c'est
elle et Tilly qui y vont, et ils rencontrent donc un groupe. Alors c'est bien parce qu'ils sont bien infiltrés, parce que bon, bah déjà, ils ont une tête très humanoïde, donc c'est pratique. Et c'est ça en ça que ça nous rappelle un peu la nouvelle génération. Ils se mettent juste un peu de griffouillage sur le front et c'est bon. Ils ont des espèces de tricorders qui sont rétiniens, donc tout est discret.
Ça, c'était pas mal.
Ouais, c'était une bonne idée, ça aussi, ouais.
C'est la première fois qu'on les voit, ces yeux magiques à la forge. Je trouvais ça très cool, l'effet, pour le coup.
Oui, ils le disent à un moment. On vous a préparé des holo-tricorders, je ne sais plus comment ils les appellent, rétiniens. Et donc, ils rencontrent un groupe qui se promène et puis qui leur en apprend un peu plus sur leur culture, quoi, de cette planète-là. De fil en aiguille, en rencontrant d'autres personnes, ils vont rencontrer donc une personne qui est l'enfant du prêtre du village, on va dire, qui veut absolument faire cette course. Ils vont donc vouloir faire cette course aussi parce que donc la personne qui gagne la course a le droit de rentrer dans la tour. Et bien sûr, eux, leur objectif à Michael et Tilly, c'est de rentrer dans la tour puisqu'elles pensent que l'indice est là-bas, quoi.
T'as oublié un truc que je trouvais, moi, plutôt réussi et plutôt chouette. C'est l'introduction à la langue de la planète.
Oui, exact,
c'est-à-dire qu'il parle par sifflement. Alors, c'est marrant parce que, de fait, la manière dont ils l'ont traduit en langue anglaise, c'est un peu... Il parle avec un langage un peu... c'est assez évolué. Et il siffle de différentes manières. Et apparemment, c'est une langue qu'il ne connaissait pas le traducteur universel, mais qui arrive quand même à le traduire. Et ça c'était chouette et c'était sympa la manière dont ils ont amené ça sur la planète.
Oui, en plus il y a une vraie justification culturelle à ça et je trouvais que c'était plutôt pas mal, c'était plutôt joli en plus. Et quand Tilly et Burnham arrivent sur la planète, elles entendent effectivement ces sifflements et donc une personne qui essaye de guider les gens en sifflant de loin, parce que forcément quand on siffle, on entend de manière plus lointaine. C'est vrai que c'était une excellente idée ça aussi.
C'était une bonne idée, mais finalement ça sert à passer le premier contact, ça sert à quoi en fait ?
Ouais, à rien.
C'est pas une grosse critique, hein, mais à part que j'ai trouvé ça très poétique au début, j'ai pas très bien compris où ça nous amenait. En plus, même l'épisode s'appelle Whistle Speak, hein, donc vraiment ils insistent là-dessus. Et j'ai pas bien compris si ça avait un impact sur ce qui se passe dans le reste de l'épisode en fait.
Bon, je pense que comme a dit Marina, les enjeux vont trop vite, c'est à la fois lent et trop rapide, et de fait, ils pouvaient pas développer ce truc-là. Je pense que c'est juste une langue qu'ils utilisent parce que c'est une planète envahie de tempêtes, de sable, etc., et qu'effectivement, le sifflement va porter vachement plus loin, notamment avec le vent, que juste une langue parlée, quoi. Mais voilà, c'est tout, c'est... Une fois la découverte le vaguement, on parle un peu différemment au tout début, paf, 3 secondes après, on est déjà dans des conversations comme si on se connaissait et qu'on avait fait la fête ensemble, quoi.
On avait gardé les cochons ensemble.
Ouais.
Mais c'est bien quand même qu'ils fassent au moins un petit effort d'avoir ce genre de petits trucs de lore un peu différent. Il y a aussi le fait que la végétation au niveau chromatique, elle teint vers le bleu en fait plutôt que vers le vert. Donc bon, bah, ça c'est un truc facile à faire, hein, mais c'est quand même sympa de faire cet effort-là. Et ce que j'ai bien aimé aussi, moi, c'est le concept même de la course qu'ils doivent faire, parce que ils doivent faire une course en étant parfaitement assoiffés et devoir se retenir de boire de l'eau, qu'il y a donc des bassines d'eau qui sont disséminées un peu partout. Et bien sûr, c'est là pour les tenter, et forcément, tu cours, t'es assoiffé, t'es épuisé, t'as envie de boire. Donc voilà, c'est comme ça que les éliminations se font. C'est une sorte de test d'endurance et de force de caractère, on va dire, de volonté. Mais par contre, moi, quand ils donnent justement l'espèce de petite pastille à tous les concurrents et concurrentes pour les assoiffer, parce que c'est une pastille qui va générer quelque chose dans le corps des gens pour les assoiffer, pourquoi Tilly et Burnham, elles le prennent sans se poser de questions ?
Parce qu'elles sont encore dans l'idée de « faut pas faire quoi que ce soit avec la prime directive ».
Ouais, ils n'ont pas à tricher.
Non mais voilà, elles ont le droit de tricher quand même.
Non.
Ton but, c'est de gagner la course. Moi, je triche. Hein. Fuck. Hein, s'ils s'en rendent pas compte, je veux dire, voilà, c'est pas grave. Et en plus de ça, elles savent pas quel effet néfaste ça pourrait avoir sur leur organisme, parce qu'elles sont humaines. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu bête qu'elles ne cherchent pas à tricher, à dissimuler le fait qu'elles ne le prennent pas. Bon.
Elles remettent pas en cause. C'est vrai qu'elles avalent le truc, mais sans problème.
Alors, sans savoir ce que c'est.
Sans savoir ce que c'est, elles peuvent faire n'importe quoi, des allergies. T'as l'impression qu'il y a aucun entraînement de Starfleet qui leur permettrait de feinter quelque chose.
Je comprends votre point de vue, mais j'avoue que ça m'a pas trop choqué. Et à l'inverse, j'ai trouvé que ça nous amenait vers une des parties de l'épisode que j'ai le mieux aimé, c'est la fille du grand prêtre, alors je sais pas si on l'appelle le grand prêtre ou quoi, qui veut absolument réussir cette course pour rendre son père fier, et ça amène vers la conclusion, on se rend compte qu'en fait c'est une course à la mort en fait, et j'ai trouvé, ça m'a vraiment rappelé ce que j'aimais dans les vieux Star Trek en fait, pour le coup cette partie du scénario, c'est vraiment ce que j'ai préféré dans l'épisode quoi. Et même Tilly, je la trouve vraiment pas désagréable, des fois elle en fait trop et tout, là dans cet épisode je trouve qu'elle est vraiment très, elle joue bien le rôle pour le coup.
Ouais, ça marche bien, ouais.
Ouais. Je l'ai beaucoup aimé dans cet épisode.
Mais justement, pour une fois, c'est Michael qui n'en peut plus et c'est Tilly qui va avoir l'endurance pour continuer, parce que là, c'est pas une course de force physique où il faut aller le plus vite, où il faut être le plus endurant sur un certain nombre de kilomètres. C'est pas un marathon, par exemple. C'est vraiment, on teste ta volonté à ne pas boire et à ne pas succomber à la tentation. Et je trouve que c'était une super idée, un super concept, et que le fait que ce soit Tilly et pas Michael qui, par exemple, remporte la course, j'ai trouvé ça très cool. En plus, il y a aussi ce principe que, genre, dans la dernière ligne droite, pour corser un peu le truc, on donne au dernier concurrent une sorte de grosse coupelle d'eau. Ils doivent courir avec jusqu'à l'arrivée, sans renverser et sans boire, bien évidemment. Et donc, la fille du grand prêtre, effectivement, elle renverse sa coupole. Et Tilly fait demi-tour pour l'aider en lui remettant un petit peu, parce qu'elle l'avait aidé déjà précédemment. Donc, il y avait vraiment cette notion de coopération en plus. Enfin, ouais, tous les ingrédients sympathiques qu'on a l'habitude et qu'on aime bien voir dans Star Trek étaient réunis dans ces séquences-là. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir.
Ouais, c'est une très, très belle scène. Moi, j'ai beaucoup apprécié Tilly qui dit « Allez, viens, on va franchir la ligne d'arrivée ». Ensemble, tiens, voilà, on prend un peu d'eau et tout. Moi, j'ai retrouvé les valeurs de Star Trek. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et voilà. Et moi, ça m'est arrivé il y a un an. Je faisais une course avec Gantard.
D'avoir soif.
D'avoir soif. Oui, cheers, cheers, Romain. Et en fait, j'étais au bout de ma vie à la fin de la course. C'était un pauvre 10 km. Hein. J'étais vraiment pas en forme. Et en fait, il y a un collègue qui est venu m'attendre à l'entrée du stade et qui a couru. Il voyait bien que j'étais au bout de ma vie. Il a couru les derniers mètres avec moi. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Donc franchement, des valeurs comme ça, je trouve ça magnifique.
Et il y a aussi un autre élément que je n'ai pas cité et qu'on ne cite pas souvent quand on parle de Discovery, c'est que la musique de l'épisode était plutôt sympa aussi. Elle était vraiment à propos, un peu bucolique comme ça. Elle était bien dans le ton de cette peuplade qu'on découvrait. Et puis de tout ce qu'on raconte, hein, de la course, de la bienveillance des personnages, etc. Tout ça, ça fonctionnait vraiment très bien.
C'est aussi un truc que j'ai apprécié dans l'épisode, c'est que Discovery a tendance à être très manichéen, et pour l'instant, ça reste le reproche principal que je fais à Moll et Locke, qui sont vraiment des méchants de foire, un peu. Et en fait, dans cet épisode, il n'y a pas de méchant, en fait. Le méchant, c'est les traditions, d'une certaine façon, et en fait, personne n'est vraiment responsable de ces traditions. Et c'est aussi un truc que j'ai trouvé beaucoup plus subtil que dans l'écriture récente trekkienne, en fait. C'est assez agréable que, je sais pas quoi, il n'y a pas vraiment de bien et de mal dans cet épisode, en fait.
J'allais dire, t'as dit que c'est Tilly qui gagne, etc. Sauf que n'oublie pas que Michael, elle sauve le monde à côté quand même, hein, grâce à ses super compétences, expertise, mais guidée par quand même l'expertise d'Adira. Elle remet en route la tour météo qui est foutue, enfin presque foutue. Elle est en background, mais elle est quand même en train de sauver la planète.
Ouais, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans la course, finalement, c'est,
ah oui, tout à
c'est
fait.
Pas,
elle
c'est
abandonne.
Pas Michael qui a eu la plus grande
Exactement.
Volonté. Et alors effectivement, ça lui permet de mener sa mission en parallèle autrement. Et en plus, mais quand même, j'ai bien aimé, tu vois, qu'on remette. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que la série, elle a enfin trouvé sa voie, qu'ils ont enfin trouvé les scénaristes qui voulaient raconter ce qu'ils voulaient en faire. C'est qu'on revient enfin à Michael Burnham, qui est xéno-ethnologiste, ou je sais plus c'est quoi le terme, etc. Mais qui est, par exemple, tu vois, je parlais de la chromie de la végétation qui tire vers le bleu. Et effectivement, elle remarque qu'il y a de la mutation sur la végétation. Elle est jaune, donc du coup, on a une belle dichotomie entre les deux couleurs complémentaires, donc ça attire forcément l'œil. Évidemment, donc Michael en tire la conclusion, s'il y a une mutation, c'est qu'il y a sûrement peut-être une fuite de radiation de la technologie de la tour, quoi. C'est un raisonnement qui est plutôt logique, qui est plutôt bien vu, parce que évidemment, cette végétation un peu jaune, jaunie, on la voit forcément de loin, donc ça tombe pas comme ça. Je trouve que c'est plutôt malin, quoi.
Je suis d'accord.
Et donc, en fait, ouais, quand Michael, elle se rend compte, quand Tilly et la fille donc du prêtre sont dans la tour et qu'on se rend compte, finalement, c'est un sacrifice. Donc, Michael décide de briser, mais franchement, la prime directive. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu un jour un capitaine ou un personnage qui brisait à ce point la prime directive en genre... Je m'emballec, j'y vais à fond. Alors c'est bon, mon gars, on vient de l'espace, t'es Dieu, bon bah ça existe pas vraiment, ça c'est de la technologie, tac, tiens, voilà mon docteur, je te le présente. Waouh, je sais pas, est-ce qu'il y a...
Ouais,
est-ce qu'il y a
alors ça va un peu vite, je suis d'accord. Après, la première directive, elle est un peu sabotée dans cet épisode, dans le sens où c'est une civilisation qui a déjà été complètement noyautée par les actes des
Nobilians,
contaminés.
En gros,
eux sans le savoir, mais est-ce que c'est vraiment respecter la directrice est-ce que c'est la directrice, n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment respecter la première directive de laisser mourir un peuple qui survit grâce à une technologie dont ils ne seraient pas capables eux-mêmes, en fait, si tu veux. Donc je pense qu'en termes de... En tout cas, moi, je serais juge à Starfleet. Pour une fois, je serais assez coulant vis-à-vis de Michael Burnham et de ses décisions, parce que la situation, de toute façon, n'est pas première directive compatible dès le départ, en fait.
Surtout que, en fait, leur salut ne peut découler que de leur connaissance de cette technologie-là. Donc c'est vrai que sinon, on les laisse crever, quoi, tout simplement. Mais souvent, la prime directive, elle mène à ces extrêmes-là. C'est-à-dire que tu laisses des gens mourir parce que tu ne dois pas intervenir. C'est déjà arrivé, quoi.
C'est tout à fait ce que fait ce qu'ils font avec le volcan dans la Kevin Timeline.
Mais je suis d'accord avec toi, Romain. Et en plus de ça, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'en 32e siècle, la prime directive, elle vaut encore autant parce que la Fédération n'est plus ce qu'elle est, donc elle est un peu en lambeaux, etc. On imagine que, presque 1000 ans plus tard, il y a quand même moins de champs, de peuples à découvrir, et peut-être que des contaminations ont moins d'impact que ne pouvaient l'être auparavant. Peut-être que la prime directive, elle peut être un peu plus souple, surtout pour des cas comme celui-ci, quoi.
Moi, je pense qu'elle n'est pas changée, mais je pense que c'était une situation compliquée pour tout le monde.
Moi, je ne suis pas trop d'accord. Ce n'est pas qu'il faut absolument appliquer les lois et tout, mais ces lois, elles ont été érigées pour une raison. Et en fait, il faut les respecter, parce que les briser, oui, peut-être, mais il faut que ce soit un vrai dilemme moral, pas juste Michael qui dit « bon, allez, c'est bon, on s'en fout, allez, on prend la décision en 30 secondes ». Tu vois, il aurait fallu un vrai dilemme, et puis peut-être… Mais là, c'est trop rapide pour balancer comme ça…
Je suis d'accord avec toi. En fait, le moteur de Michael pour briser la directive première, c'est la mort de Tilly, et non pas le dilemme moral que sous-entendait Romain tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Il y a une technologie qui leur permet de survivre. Elle vient d'ailleurs. Si cette technologie est en train de s'effondrer, et s'ils n'en ont pas la connaissance pour pouvoir la réparer, l'entretenir, etc., ils vont tous mourir. Est-ce que la première directive peut s'appliquer ou pas à ce moment-là, quoi ? Plutôt que dire « c'est bon, je prends ma décision parce que ma copine, elle va mourir ».
On est quand même dans la même dynamique que Chris Pine dans la Kelvin Timeline, hein, qui décide de sauver Spock quoi qu'il en coûte, quoi. Et donc, ils ont le vaisseau qui s'envole de l'océan devant cette civilisation qui est pré-distorsion, etc. Quoi.
Ouais, au début d'Into Darkness.
Mais encore une fois, tu l'as dit dans ton propos, Guigui, les scénaristes ont quand même pensé à ça, et il y a quand même cette histoire où Adira, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas Adira, c'est pas grave, un des personnages dit il faut, de toute façon, c'est des technologies qui sont faites pour être maintenues. Et c'est bien de la réparer maintenant, mais si c'est pas maintenu, de toute façon, le problème va se reproduire dans 10, 20 ans, etc., etc. Donc, tu vois, ils ont quand même pensé, parce que ça veut dire que de toute façon, bon gré mal gré, soit tu les laissais tous crever, alors soit maintenant, soit dans 20 ans, soit de toute façon, tu brisais la prime directive pour leur donner une chance sur une technologie qui, de toute façon, n'est pas la leur, quoi. Et j'ai trouvé, encore une fois, j'ai trouvé qu'ils s'étaient au moins posé les bonnes questions. Je suis d'accord sur la vitesse et tout, mais j'ai trouvé qu'ils s'étaient posé les bonnes questions d'un point de vue scénaristique.
Mais c'est trop rapide. C'est trop... Il aurait fallu... Tu te dis, mais Picard ou Riker, il aurait...
Les gars, elle était en train de crever, Tilly, à côté. Donc, mais l'urgence de la situation fait que, à un moment, il fallait qu'elle choisisse, quoi.
Moi, je pense que ça aurait été plus fort et plus puissant si elle avait laissé mourir Tilly. Mais là, je suis consciente que c'est pas une...
C'est le fait de Genoé, quoi.
Ouais, mais oui, mais c'est pour ça que Janeway est un grand capitaine et elle était dure, elle était intransigeante et elle suivait, et tu sentais que lorsqu'il y avait un dilemme moral, elle prenait le temps de tout un épisode pour peser le pour et le contre, elle discutait avec Seven of Nine, elle discutait avec ses officiers, enfin il y avait, là je suis consciente, hein, elle devait prendre sa décision rapidement. Mais franchement, si la directive première n'est pas ancrée dans les personnages, c'est juste à ce moment-là quelque chose qu'on peut jeter aux orties tous les jours.
En tout cas, pour le moment, Michael Burnham a quand même moins brisé la directive première que tous les autres capitaines de Starfleet, donc ça va.
Oui, c'est ce qui me semblait aussi.
Parce que là, il me semble que c'est la première, c'est la seule fois, hein, j'ai l'impression, où c'est arrivé.
D'ailleurs, ça serait, si on s'y mettait tous ensemble, là, tous les cinq ensemble.
La deuxième, peut-être.
Ça serait intéressant, un épisode où comment réagirait Starfleet face à une... Je crois pas que ça ait été fait, j'ai un trou de mémoire. Comment réagirait Starfleet face à une civilisation qui briserait volontairement la prime directive, en fait. Admettons que les Klingons se mettent à raser constamment des planètes
Mais c'est ce qu'ils font.
Non war. Que doit faire la Fédération dans ces cas-là?
Ils l'ont déjà fait, ça.
Ah ouais?
Ah oui, oui, oui.
Et comment réagissait la Fédération alors?
C'était dans l'Empire Klingon, alors il faisait rien.
Ah ouais, c'est ça.
Mais oui, c'est, mais je suis d'accord, c'est une vraie bonne question. Hein. En plus, c'est une genre d'histoire qui aurait pu amener des allégories assez intéressantes, notamment avec un conflit qui se passe en ce moment.
Donc, ouais, forcément, oui. Ouais. Tu aurais pu parler colonisation, etc. Pour le coup, ça aurait été un traitement intéressant.
En fait, Michael, je crois que c'est la deuxième fois qu'elle le brise. Mais la première fois, c'était, je crois qu'il n'avait pas fait exprès, c'était dans le deuxième épisode de la saison 2, qui était un super épisode. Mais
c'était
en fait,
quoi, déjà
c'était des humains qui étaient kidnappés de siècles auparavant, donc c'est pareil, est-ce que ça s'applique vraiment? C'est un peu compliqué aussi, quoi. Mais en tout cas, je suis sûr que Janeway, Kirk et Picard, ils l'ont fait plus souvent qu'elle, quoi, en tout cas, c'est sûr.
Il y avait un épisode de Next Gen très chouette, tu te rappelles, une civilisation qui déplaça un astéroïde qui devait percuter une planète non warp, donc une planète pré-warp. Mais je ne suis pas sûr qu'ils en avaient conscience, mais l'Enterprise... enfin, il y avait une histoire comme ça où, qui m'a fait... J'ai pensé à cet épisode en regardant l'épisode d'aujourd'hui.
Ils l'ont fait aussi, ça, le coup de l'astéroïde dans Discovery. Ah non, c'est Strange Worlds, pardon.
Dans le deuxième épisode,
mélangé
ouais,
deux.
Ouais. Ouais. Du coup, il y a une petite transition qui est intéressante à faire, c'est le côté, justement, spirituel. Parce que là, on a l'impression que la morale de l'histoire par rapport à cette peuplade-là, c'est oui, bon alors, tu croyais que c'était des dieux qui géraient ta météo, des trucs comme ça. En fait, non. Je t'explique, non, c'est pas ça. C'est la technologie, etc. Bon alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de dieu quelque part, mais en tout cas, c'est pas des dieux qui ont fait ce que vous pensez qu'ils faisaient. On peut imaginer que ça peut aller dans un sens qui est pas trop, comment dire, religieux pour ce qui nous attend pour le final. Mais par contre, les scènes avec le docteur laissent toujours à penser qu'on y va franchement, quoi. Parce que le docteur, visiblement, il a une épiphanie et donc il a un éveil spirituel. Je ne sais pas trop comment qualifier ça.
Oui, une épiphanie.
Et en fait, j'ai l'impression que ces épisodes-là, ils sont là pour réconcilier comment dire, les gens très, très religieux et la science en général, quoi. Donc... peut-être des gens qui sont dans ce cas-là aux États-Unis, par exemple. Alors chez nous, on est moins porté sur la religion, donc forcément, je pense que ça nous parle moins. Mais j'ai vraiment voilà, cette sensation qui cherche un peu à réunir ces deux pans de pensée d'une population pour dire « Allez, maintenant, faites la paix, quoi. » Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis.
Non, tu es très clair, mais moi, c'est un message qui me touche, auquel j'ai souvent pensé que... je trouve que pour le coup, moi je suis plutôt côté scientifique que religieux d'une manière générale, mais je trouve qu'il n'y a pas fondamentalement d'opposition réelle entre la religion et la science en fait. Il y en a à partir du moment où tu restes sur des dogmes, c'est-à-dire la Bible dit ça et ça, donc il ne peut pas, tu vois, la Bible dit qu'on descend d'Adam et Ève, donc on ne peut pas avoir eu des dinosaures et des hommes de Néandertal. Là oui, il y a une opposition, mais dire qu'au contraire, plus tu avances dans la science, plus l'existence d'un dieu ou d'une force supérieure, ou pour le dire à l'inverse, plus tu avances dans la science, plus tu peux être amené à croire au contraire, parce que tu dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une main qui guide un tel niveau de complexité, en fait, si tu veux. Donc moi, j'ai trouvé le message de Burnham pas si bête, pour une fois, encore une fois, j'ai été assez surpris par l'écriture de cet épisode.
Ouais, mais j'ai trouvé que ses réponses étaient trop faciles, tu avais l'impression que c'était une pro de la religion, quand elle te parlait des dieux, des croyances. En 30 secondes, elle t'explique comment fonctionne la religion.
C'est un peu son domaine d'expertise, en vrai, d'étudier les civilisations extraterrestres. Et la religion, ça fait partie, justement, d'une société, en règle générale. C'est ce qu'elle te dit, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est beaucoup trop vaste. Il aurait fallu un peu plus de temps pour expliquer. Là, c'est expédié trop rapidement pour moi. C'est question philosophique. Je ne suis pas plus religieuse que les autres. On va même dire que c'est juste comme ça pour le folklore. Mais franchement, ces questions-là, elles sont beaucoup trop profondes. Quelqu'un qui a été profondément religieux, qui a suivi des dogmes toute sa vie, il ne peut pas comme ça se dire que les dieux n'existent pas d'un claquement de doigts. Tu vois, donc c'est...
Bien sûr.
Pour moi, c'était trop, trop rapide. Le mec, il aurait dû être effondré. Il aurait dû y avoir quelque chose qui provoque un bouleversement dans sa foi, pas juste quelqu'un qui apparaît comme ça.
Bah, il y a quand même la mort de sa fille. C'est ça, là-bas. C'est pas tellement Burnham. C'est le fait que sa fille va mourir.
Ouais, mais j'ai trouvé que c'était pas assez puissant pour générer ce genre de... Je voyais très bien où ils voulaient en venir, les scénaristes. Mais pour moi, c'était trop rapide. Et il aurait fallu plus de profondeur. Et je voyais bien Picard dans le rôle de Burnham, pour le coup. Ou peut-être Troy, hein, après tout.
Ouais, peut-être plus Troy.
Ouais, plus Troy, pour parler de religion, de croyances. Voilà, il y a plein d'épisodes de TNG qui ont traité le sujet. Et je trouvais avec plus de profondeur, ils avaient de meilleurs scénaristes à l'époque. C'est peut-être que j'ai trop de nostalgie. Hein.
Bon, alors, peut-être, mais je suis d'accord avec toi, c'était très rapide. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier l'urgence dans la salle d'à côté, quoi. Elle a 30 secondes pour arriver à juste le convaincre d'arrêter le sacrifice. Elle ne lui dit pas qu'elle va lui retourner le cerveau et qu'il va devenir athée et voire agnostique dans la minute suivante. Mais effectivement, elle lui sert des généralités un peu trop vagues sur la religion et qu'est-ce que c'est de croire, etc. quoi. Mais oui, ça va trop vite.
Et puis l'épiphanie du grand prêtre, elle est en trois temps. D'abord, il voit un espèce de dieu qui se matérialise devant lui, donc il y a de quoi être choqué. Ensuite, elle sauve la vie de sa fille, donc il y a de quoi être ému. Et il faut pas oublier qu'il y a le tonnerre qui démarre et la pluie qui démarre aussi, ce qui était ça qu'ils attendaient depuis le début. Donc elle est en trois temps, ça touche à la fois l'extérieur, Burnham, son intimité et ses croyances, la pluie en fait. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Vous savez que j'aime pas cette série fondamentalement, mais là je sais pas, c'est à se demander ce qui leur est arrivé en fait dans cet épisode. C'est tellement proche de ce qu'on... Enfin, ça ressemble tellement à un épisode de TNG, en fait, sans ce qu'ils ont su faire aussi par le passé, sans imiter totalement un épisode du passé, ce que j'aime pas non plus. Je sais pas, j'étais content, quoi.
Ouais, j'ai bien aimé l'épisode, c'est juste que j'ai trouvé que c'était trop rapide. J'aime beaucoup ton explication en trois temps, mais pour moi, c'est toujours trop rapide, et la manière dont Burnham est experte en tout, mais juste...
Ah, mais ça, c'est exaspérant. Ouais.
J'ai pas rebondi tout à l'heure quand tu l'as dit, Guigui, mais en effet, elle n'a rien à faire sur la planète, Burnham, à la base, hein, puisque c'est au second officier. Autant dans les épisodes précédents, ils essayaient de trouver une excuse, tu sais, ah oui, mais toi, t'es spécialiste de Mole et Lac, donc on va te laisser dans le vaisseau, tu vas devoir traquer Mole et Lac et moi. Tu te rappelles, ils avaient essayé de faire ça il y a deux épisodes. Là, ils n'en parlent même pas. Ouais, ok, j'y vais. Mais il n'y a pas une règle dans Starfleet qui dit que c'est le premier officier qui doit. Non, j'y vais. Ok, bon, bah, ok.
Ouais, et donc, quel autre personnage va partager la vedette avec Michael Burnham dans le prochain épisode? Qui n'a pas fait Adira, je pense.
Ah mais Adira, je l'adore. Hein. Et franchement, entre Culber et Adira, mais je les adore. Hein. Donc.
Adira était déjà pas mal featurée dans l'épisode sur Trill.
Ouais, mais elle faisait pas une team-up avec Michael.
Moi, je parie sur Stamets. C'est celui qu'on a le moins vu pour l'instant dans les stars de la série.
Ah, mais Stamets, on l'a vu dans l'épisode précédent.
L'épisode 4.
L'épisode 4, oui, pardon. Avec le...
Ah, le voyage dans le temps, t'as raison. Ouais, je suis bête. Ouais.
Pour moi, il y a Adira qui n'a pas eu droit encore à son team-up.
Bah, je sais pas, elle va sur la... Ils vont chez les bétazoïdes, là, donc...
Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Qu'est-ce qui va être un spécialiste de ça?
Est-ce qu'on va les voir nus? Moi, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'on va les voir nus? C'est ça que je veux savoir.
Bah, s'il y a un mariage, oui. S'il n'y a pas de mariage, non.
Ah, c'est que dans les mariages qu'ils sont nus les bétazoïdes.
Ouais, c'est les mariages.
Ah, je pensais que c'était toute la race. Ouais, mais je pensais que chez eux ils étaient nus en fait, et que c'est pour ça que dans les mariages la tradition voulait qu'ils soient nus en fait.
C'est les mariages.
Non, c'est pas. Ils ont pas précisé ça, mais sûrement il y a d'autres endroits ou d'autres moments. Où
dans leur chambre, par exemple.
C'est là où Riker a vu Troy nu. Elle était demoiselle d'honneur à un mariage.
Ouais. Et sinon, il y a juste quand même un truc, moi, qui pour conclure un peu. Donc ouais, cet épisode je l'ai trouvé très bien. Et effectivement, vous avez. Bien souligner tous les bons points de cet épisode, même un peu les mauvais. Mais il y en a quand même un qui m'a gêné, moi, c'est le docteur Culbert qui gère un peu sa peine, son deuil de sa famille qui a disparu, avec un hologramme de sa grand-mère, comme dans un épisode de Black Mirror. Je trouve que c'est pas très sain, je comprends pas pourquoi il fait ça, en fait.
Bah, c'est comme disait un seigneur conseillère sur le Discord, le deuil, c'est de l'introspection, et je pense que ça l'aide pas du tout de rester dans ce souvenir. Il a envie de se souvenir des bons moments, mais comme nous toutes, mais quand on va regarder une vidéo, ou des photos, ou des machins, ou se souvenir de manger effectivement un plat que tu mangeais avec la personne qui est disparue, mais de là avoir des conversations, et de fait interroger cet hologramme de sa grand-mère, sur sa potentielle condition neuronale. Non, je trouve ça bizarre ce revirement. Enfin, c'est bizarre, non. Je pense qu'il est en plein burn-out et qu'il se pose 10 000 questions et que l'expérience Thrill l'a complètement chamboulé. Mais c'est dommage, effectivement, qu'il le tire un peu trop vers le côté spirituel. On parlait la semaine dernière de comment est-ce que Stamets réagirait s'il lui en parlait. On a vu, effectivement, on ne s'attendait pas à autre chose, son côté scientifique.
Ouais, en plus, alors là, pour le coup, je suis archi d'accord et c'est traité très vite. Tu sais, il dit le robot, j'oublie toujours son nom, robot
Zora,
envoie une note à Starfleet pour dire que c'est vachement bien pour gérer le deuil, les trucs bizarres. Enfin, tu sais, t'as envie de lui dire c'est un peu rapide ton test et tout. Moi, ça m'a rappelé une scène qui m'avait déchiré le cœur dans un film que j'adore et qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Strange Days, où le héros revivait une scène avec son fils et sa femme avec un espèce de casque virtuel, mais très très avancé. Et ça te brisait le cœur. Enfin, tu sentais que ça, au contraire, ça le faisait terriblement souffrir, au contraire, de revivre tout le temps la même scène et tout. Donc, j'ai trouvé ça un peu. Ça m'a pas sorti du truc, mais je me suis dit, c'est bien rapide quand même. Ouais, génial, Zora, envoie une note à Starfleet.
Mais en tout cas, il est possible quand même que les atermoiements du docteur portent toute l'histoire de la saison, en fait, le message un peu en filigrane de ce qu'on nous raconte, quoi. Donc, on verra bien dans les prochains épisodes jusqu'où ça va nous mener. Alors, bilan. Bon épisode ou pas ?
Oui, bon épisode. Pour l'instant, ça va.
Ouais, moins pire que celui de la semaine dernière.
Ouais, je suis très content. J'aurais aimé voir ça 8 fois sur 10 dans chaque saison de Discovery, en fait.
Moi aussi, j'ai bien aimé, et donc on va rejoindre l'avis de Romain Nigita, dont on va écouter le journal de bord tout de suite. Captain.
Incoming message. Journal de bord de l'officier Romain Nigita. Bah écoutez, je ne suis pas avec vous car je suis parti en mission d'exploration pour préparer notre prochaine mission qui aura lieu à Metz en Moselle. Donc voilà, je ne suis pas avec vous et c'est bien dommage parce que cet épisode 6 de cette 5e saison Discovery, il est plutôt pas mal. Je vous rassure, j'ai pas été remplacé par mon double de l'univers miroir. Non, j'ai plutôt apprécié cet épisode. Alors quand je dis apprécié, attention, il rentrera pas dans le top 10 des meilleurs épisodes de la franchise. Mais disons que comme l'épisode 4, c'est un bon petit épisode bouclé, très classique, très typique de ce qu'on aurait pu avoir soit dans la série originale, soit même dans la nouvelle génération. On joue avec le concept de la prime directive, est-ce qu'on doit aider ou pas ce peuple extraterrestre qui est évidemment moins développé technologiquement parlant que la Fédération. On a un univers un petit peu original, j'aime beaucoup cette communication avec les sifflements un peu comme des oiseaux d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à la toute fin de l'épisode, une fois que le Discovery repart. C'est plutôt mignon. D'ailleurs, je trouve la direction artistique très réussie, justement, sur cette planète, en termes de décors, de costumes, que ça soit, justement, l'intérieur du temple, ou que ça soit les extérieurs, ou même ce qu'on voit, évidemment, en image de synthèse, quand on voit les plans très larges de la planète, ça rappelle un petit peu Pandora dans Avatar. Donc, tout ça est plutôt réussi, tout ça est plutôt impressionnant. Il n'y a pas besoin de faire des grosses scènes d'action, on a quelque chose de très pro, de très joli, qui littéralement nous transporte dans un autre monde. Il n'y a pas de grosse originalité, mais tout s'imbrique bien, que ça soit l'intrigue A ou l'intrigue B. Je trouve que justement on était un petit peu dubitatif la semaine dernière sur tout l'aspect divinité, spiritualité, et là je trouve que justement l'intrigue de Culber et l'intrigue principale, ça se marie bien justement sur cette façon de marier à la fois la technologie et l'existence d'une spiritualité. On sait que ça a toujours été un truc un peu paradoxal dans Star Trek avec les épisodes de la série originale, avec les dieux de l'Olympe ou même avec l'idée de base de Star Trek 5, l'ultime frontière. On sait que c'est toujours très, très périlleux de se lancer là-dedans, et là je trouve que dans cet épisode-là, ils s'en sortent pas trop mal pour mixer les deux. Donc vraiment, un épisode plutôt bien écrit, avec des dialogues plutôt drôles. Un des seuls dialogues que je trouvais pas très subtil, c'est la scène du début avec David Cronenberg. Alors c'est toujours absolument génial de se rendre compte qu'il y a David Cronenberg dans Star Trek quand même. Mais voilà, quand il sort son petit carnet en papier, il dit oui, je sais que ça fait de moi quelqu'un d'un petit peu original. C'était pas la peine de le souligner jusque-là, juste le fait qu'il ait son petit carnet suffisait. Voilà, c'est un petit peu surligné, c'est un peu dommage. Et l'autre problème que j'ai justement avec cette scène-là au début de l'épisode, et de manière générale tout le pré-générique, et on l'avait déjà souligné dans les épisodes précédents, et là finalement ça se répète, c'est étant donné que ces épisodes bouclés sont au sein de cette intrigue feuilletonnante avec cette chasse au trésor, cette chasse aux indices, et bien à chaque fois, en début d'épisode, avant vraiment de rentrer dans l'intrigue de la semaine, on a la résolution de l'indice. Voilà, comprendre d'abord ce que veut dire l'indice avant de pouvoir arriver dans le rappel de la semaine. Ce qui fait qu'on a cette espèce d'intro ultra longue qui dure quasiment 10 minutes où bah, ça avance pas des masses et où paradoxalement bah, finalement la résolution de la compréhension de l'indice est beaucoup trop rapide. Donc voilà, on a une espèce de premier acte un peu bâtard qui n'est ni un pré-générique ni un premier acte total, et du coup bah, ça patine un peu avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est dommage parce que cette semaine, quand on est dans le vif du sujet, ça va assez vite. Et on a eu le même problème la semaine dernière avec aussi la fin de l'épisode, où pareil, on se retrouvait encore avec un espèce d'épilogue de 5 ou 10 minutes une fois que l'intrigue principale était résolue. Là, heureusement, ça va un petit peu plus vite, l'épilogue est bien plus resserré, et on retrouve justement bah, Culbert et Brooks, et là, ça marche assez bien. Là aussi, non seulement c'est concis, mais ça marie bien les différentes intrigues et de l'épisode et de la saison. Voilà, la relation Book et Michael, Culbert et Stamets, et tout ce questionnement sur les divinités et la spiritualité. Donc finalement, pas de gros soucis à pointer sur cet épisode-là, plutôt efficace, plutôt sympa, pas d'une grande originalité, mais c'est le genre d'épisode qu'on aimerait avoir un petit peu plus souvent finalement dans Discovery. J'y croyais pas trop en début de saison, mais s'ils arrivent à faire des épisodes comme celui-ci ou comme l'épisode 4, bah tant mieux. Après voilà, ça va être périlleux, et finalement la saison ne compte que 10 épisodes, et on sait que en fait il n'y en a que 8 pour l'intrigue principale, et puis les deux derniers c'est un peu la conclusion qu'ils ont tournée une fois qu'ils ont appris que ça serait l'ultime saison de la série. Donc c'est peut-être un peu trop tard maintenant pour avoir d'autres épisodes bouclés comme cela, mais en tout cas, voilà, c'est ce genre d'épisode bouclé qu'on salue à chaque fois, qu'on aime bien dans Strange New World quand c'est réussi, parce qu'il y a aussi eu quelques petits ratés dans Strange New World, mais bon, ça fait du bien, et je me répète, mais c'est rafraîchissant d'avoir ce genre de choses-là. Donc, bah oui, plutôt une bonne surprise, je pense que c'est le genre d'épisode que je retiendrai dans mon bilan de fin de saison de Discovery. Voilà, et puis, bah écoutez, en attendant, évidemment, notre crowdfunding est toujours en ligne, donc allez-y, à l'heure où je vous parle, on en est déjà à 72% en à peine plus de 24 heures. C'est déjà super, donc vraiment merci déjà beaucoup à tous ceux qui ont contribué. Et puis bah, n'hésitez pas, les autres, hein, y a encore plein de super contreparties qui sont dispo. L'événement en septembre à Metz, en Moselle, sera vraiment super sympa, parce qu'il n'y aura pas que le film, comme vous le savez, il y aura le film, le podcast, le quiz, et puis bah, c'est l'occasion de tous se voir en vrai. Donc vraiment, allez-y, Kiss Kiss Bank Bank, Quadrant Pop, Metz en Moselle, Star Trek, ça va être chouettos. Et puis d'ici là, moi, je repars, et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain podcast. Salut tout le monde.
Alors c'est le moment de la partie promo ou reco du podcast. Marina, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir ou à recommander ?
Eh ben, j'ai lu le deuxième tome de The Nice House on the Lake et j'ai adoré. Donc je recommande, j'avais recommandé le premier tome, et ben là je recommande le deuxième tome.
Et toi Marie-Paul, t'as un truc dimanche, je crois.
Oui, alors j'avais un truc dimanche, j'ai un problème de voiture donc je ne pourrais pas m'y rendre, mais Manu, lui, il va... Ouais, lui, Manu, il va toujours. Donc, effectivement, à l'Ouest Hurlant, qui est un festival de l'imaginaire à Rennes, qui a lieu tout le week-end, il sera en direct pour un coin lecture qu'on a fait aussi lundi sur Twitch. Donc là, ce sera le Twitch de l'Ouest Hurlant. Dimanche de 15 à 16, il y sera avec Mara, et il devait avoir une troisième personne en plus de moi, mais malheureusement, moi, je ne pourrais pas y aller. Ma voiture étant en panne, et il n'y a pas de train qui fait le retour Rennes à chez moi.
Ah, quel dommage. Et toi, Romain ?
J'ai deux recos. La première, j'en ai peut-être parlé sur le podcast, je sais pas, j'ai beaucoup aimé la série Fallout qui est inspirée du jeu vidéo de Bethesda. Je trouve que la série est vraiment vraiment très réussie, et elle t'amène dans une direction que tu t'attendais pas forcément, et en plus il y a Cal MacLachlan qui est quand même ton héros absolu, Guigui, donc voilà, j'ai beaucoup pensé à toi en regardant la série. Il est bien en plus, comme très souvent, mais là il est particulièrement bien. La deuxième reco, c'est pas une reco, vous allez vous moquer, mais j'ai réalisé que ça me manquait de ne pas revoir des choses. On regarde trop de nouveautés, on ne revoit plus assez avec toute cette abondance de contenu qu'on reçoit constamment. Et suite à la mort d'Akira Toriyama, je suis en train de revoir la série Dragon Ball, l'originale, celle de Sangoku enfant. Et en fait, j'ai jamais été un gros fan de Dragon Ball. J'adore ça comme tous les gens de ma génération, mais je suis pas fan comme beaucoup de gens l'ont été, ou vraiment ils collectionnaient tout et tout. Et en fait, c'est littéralement la première fois que je revois Dragon Ball depuis mes 6 ans, probablement, 5-6 ans, quoi. Et du coup, je le regarde avec un œil à la fois différent et nouveau. Nouveau parce qu'il y a plein de trucs qui sont très gênants aujourd'hui et pour le coup, je ne suis pas fondamentalement pour la cancel culture, mais alors là, faut admettre qu'il y a quand même des trucs où tu fais wow comme ça, tu vois. Et à l'inverse, il y a toujours des trucs qui restent d'une efficacité redoutable, où tu, même d'un point de vue purement technique, animation et dessin, où tu dis putain, mais les mecs, ils étaient quand même vraiment trop trop forts, quoi. Donc, je prends énormément de plaisir à revoir cette série que j'avais pas revue depuis vraiment très très longtemps.
Ah, bah figure-toi que moi, je la regarde avec mon fils depuis plusieurs mois et c'est vrai que toujours le même plaisir, quoi.
Alors, je vais juste préciser que j'ai failli en parler dans mes recos et puis je me suis dit non, finalement. J'ai acheté le manga à Maxime et pendant une semaine, Maxime m'a fait la tête. Il me le rendait en me disant « mais il n'y a pas de couleur » et puis « dans quel sens ça se lit » et tout ça. Et j'ai commencé à lui lire depuis hier et en fait, on a fini le tome 1 en 24 heures. Il adore, mais oh, il adore. Et il me le tend et il me dit « tiens maman, lis-moi les histoires de Sangoku. » Par contre, je dois dire que toutes les scènes de culottes de Bulma, je les passe très rapidement. Et toutes les scènes où on voit les seins de Bulma ou les fesses de Bulma, je les passe très très rapidement. Parce que
si
je
avec
me dis,
les fesses, ça, si avec les culottes, ça irait, mais ça va quand même beaucoup plus loin.
Faut que vous lisiez Dr. Slump après.
Ouais. Ah, mais je viens de voir les épisodes avec Harley, justement. Je viens de voir les épisodes de Dragon Ball avec Harley.
Si tu veux pisser de rire, ouais, faut lire Dr. Slump. Ah, ça, je me souviens. Je pisse de rire quoi devant ce monde.
Et d'ailleurs, que vaut l'animé ? Parce que j'ai vu qu'ils avaient refait un animé. Il y avait eu le premier animé que je pense que le Club Dorothée a diffusé. Apparemment, ils ont refait un animé dans les années 90. C'est regardable ça ou pas ?
Je suis pas au courant. Ça me dit rien du tout. Mais je me souviens que le premier animé était à pisser de rire aussi.
Ouais, j'ai eu bien. Le sacré professeur Slump, tu es un farceur. Mais tu le regardes où, Dragon Ball, Romain ? Sur quelle chaîne ?
Ça passe sur Warner TV en ce moment.
Ah d'accord. Bah, je vais peut-être prendre un pass parce que je vais regarder, ouais. Parce que là, j'ai envie de lui montrer, même si ça va être chaud de couper des scènes.
En tout cas, en ce qui me concerne, bah, moi, au moment où vous écouterez ce podcast, je serai au Festival du Rayon Vert à Volcranche, près de Thionville. Donc, c'est au domaine de Volcranche, ça sera dans le château. Et qu'en plus de ça, à 15h30, je ferai une conférence sur X-Files, parce que le thème de cette année, ce sont les enquêtes surnaturelles. Et donc, bah, bien sûr, quoi de mieux que de parler de X-Files pendant une heure, devant, j'imagine, j'espère, un public nombreux. Et du coup, en plus, je vais le filmer, une captation que je mettrai sur ma chaîne YouTube un peu plus tard. Donc, si vous n'êtes pas dans le coin, vous pourrez toujours vous rattraper là-dessus. Mais venez, franchement, la liste des invités est assez folle. D'ailleurs, Comics Blog a même fait un article sur le sujet hier. Voilà, donc
ouais, paraît que c'est un super festival.
Ah oui, c'est un super festival, très convivial à échelle vraiment humaine. Donc c'est vraiment, t'as les familles qui vont là-bas, t'as quand même beaucoup de trucs geeks et t'as beaucoup de... Si t'es amateur de comics et de trucs vraiment geeks et tout, bah il y a vraiment, il y a de quoi faire. Et surtout, si le temps s'y prête, parce que c'est dans un domaine, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Rayon Vert, c'est parce qu'il y a de la verdure partout, on est dans un parc et c'est vraiment très agréable. Et cette année, c'est la première fois où on sera au château. Et donc je serai en dédicace pendant les deux jours sur le stand de Philactère dans la grande salle. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. J'aurai la surprise samedi quand j'arriverai. Donc je vous attends là-bas tout le week-end avec impatience. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur la page du financement participatif de Kiss Kiss Bang Bang du Cadran Pop pour notre événement en septembre, parce qu'on aimerait bien passer quand même les 100% assez rapidement. La dernière fois, on les avait passés en 2-3 jours. Donc là, je pense que ça va peut-être mettre une semaine. Je croise les doigts, je compte sur vous.
Mais le Rayon Vert, c'est pas pour le livre de Jules Verne ?
Peut-être, je sais pas. Je demanderai aux organisateurs et je te donnerai la réponse.
Le Rayon Vert, c'est la lumière qui apparaît lorsque le soleil rase l'horizon et c'est ce qui atteint ta rétine, en fait. Et avec l'effet,
oui, ce qui n'arrive jamais.
Voilà, mais dans le bouquin, ils passent leur temps, les personnages passent leur temps à avancer le plus possible pour apercevoir ce Rayon Vert.
Ok. Bah, je leur pose la question, je te dirai, si ça se trouve, c'est sûrement ça. Ouais. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
Ciao.
Salut.
Ciao, ciao.
Bonus.
Trax.
Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes? Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des Légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label.
Bonus.